Aujourd'hui, nous recevons le président de l'Université du Maine, Rachid Elguerjouma. Bonjour.
Bonjour.
C'est votre première rentrée en tant que président. Vous étiez auparavant vice-président. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ?
Forcément, oui, oui. Le président est responsable donc vis-à-vis regard de la loi et il est effectivement l'autorité donc administrative par rapport au personnel, ce qui n'était pas le cas du vice-président.
Pourquoi est-ce que vous êtes présenté à ce poste de président de l'université ?
Ah, je me suis présenté à ce poste parce que j'ai essayé de porter un projet collectif. Quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Je ne me suis pas présenté comme l'homme providentiel qui vient porter des solutions miracles. D'autres ont essayé de le faire dans d'autres contextes et puis peut-être dans celui-là aussi. Mais non, on avait un projet et je pense que l'université avait besoin qu'un projet collectif soit porté pour que les collègues s'y retrouvent, les étudiants aussi, dans un contexte en plus qui était assez compliqué et difficile.
Oui, nous allons en parler. D'ailleurs, quand vous avez tenu votre conférence de presse la semaine dernière, conférence de presse de rentrée, vous avez bien insisté sur le travail d'équipe. Nous avons rendu compte de cette conférence de presse dans le journal. Là, nous allons aborder toutes les questions de fond qui touchent à l'Université du Maine. La première question, eh bien, ce sont les inscriptions. Et là, bonne nouvelle, elles sont en hausse toujours de 6%. Vous espérez atteindre les 11 000 étudiants. Est-ce que c'est un plus, ça, pour l'université ?
En vrai, on ne court pas derrière les chiffres. On n'est pas en compétition. On n'a pas de record à battre. Simplement, une université qui voit ses effectifs évoluer, cette évolution témoigne de son attractivité, de son dynamisme. Si les effectifs décroissaient, je pense qu'on serait inquiet. Donc on est satisfait depuis maintenant, 5-6 ans, ça croît régulièrement et on a une pente, un taux de croissance qui est l'un des plus élevés de la région. Bon, c'est vrai qu'on part de loin parce qu'en Sarthe, on est un peu en retard, on a le même taux de bacheliers que la moyenne nationale, voire au-dessus, mais on a moins d'étudiants, c'est-à-dire moins de personnes qui sortent du lycée s'inscrivent à l'université. Donc là, on pense qu'on a fait le nécessaire pour les sensibiliser, pour en attirer quelques-uns vers le supérieur et aussi attirer des étudiants d'autres régions ou au moins d'autres villes de la région, genre Angers, Nantes, la Bretagne. On a des Marseillais qui viennent pour certaines formations.
Il faut préciser que l'Université du Maine est présente au Mans et aussi à Laval.
Exactement, on essaye de mailler le territoire du comté du Maine. Voilà, Laval, la Mayenne, la Sarthe, c'est notre bassin, effectivement.
Et comment vous expliquez cette hausse du nombre d'inscriptions à l'Université du Maine depuis plusieurs années ?
Moi, je pense qu'il y a un travail de communication qui a été fait. Il y en a aussi des résultats, peut-être en termes de professionnalisation, en termes de diversification de l'offre de formation. En termes de performance, si je puis dire, en recherche, on a quand même des labos qui sont de renommée internationale pour certains d'entre eux. Puis en plus, il y a une meilleure synergie avec la ville. Quand je dis la ville, pas forcément avec la mairie, hein, mais avec notre environnement. On est un peu un acteur culturel aussi du paysage avec Eve, Espace Vie Étudiant, qui organise plein de spectacles toute l'année, qui attire aussi des monceaux qui viennent à l'université, pas forcément le jour de l'inscription pour inscrire leurs enfants, mais aussi pour voir des spectacles, des choses de la vie culturelle. Donc voilà, on est dans une autre dynamique qu'il y a quelques années.
Et d'ailleurs, à ce propos, l'Observatoire de la vie étudiante de l'Université du Maine, qui a publié une étude menée par un des sociologues de l'université, montre que la vie étudiante ici au Mans est tout à fait satisfaisante pour les étudiants.
Oui, c'est deux sociologues, je vais les citer, Servet Tertul et Jean-Philippe Melchior sont les animateurs de l'OVE, l'Observatoire de la vie étudiante, et leurs travaux témoigne effectivement de cette qualité de vie qu'il y a sur le campus qui fait partie des éléments d'attractivité qui font que nous sommes un campus à taille humaine bien desservi, qui est en bon état, donc où il fait bon vivre.
Autre spécificité de l'université, Rachid Elguerjouma, c'est, vous l'avez dit, que c'est parmi les plus professionnalisantes de France.
C'est-à-dire que depuis quelques années, la tutelle, le ministère a fixé un certain nombre d'objectifs aux universités en termes de mise en place de formations professionnalisantes, notamment licence professionnelle, DUT, etc., master professionnel, ou en tout cas à orientation professionnelle. Et dans ce domaine-là, effectivement, l'Université du Maine a beaucoup de formations qui vont dans ce sens-là et était même un peu en avance par rapport à la moyenne nationale, ce qui fait que dans toutes les enquêtes du ministère, on sort parmi les premiers à chaque fois pour le taux d'insertion professionnelle. On a aussi un BAIP, un bureau d'aide à l'insertion professionnelle, qui fonctionne. Et donc je pense qu'effectivement c'est le fruit d'actions conjuguées de collègues qui effectivement se donnent beaucoup pour que l'université soit dans le meilleur état possible.
Alors vous êtes très critique envers le plan licence qui avait été lancé en 2007, qui consiste à aider les jeunes à décrocher au moins la licence, donc au moins un diplôme de l'enseignement supérieur, avec l'objectif de 50% d'étudiants qui sortent de l'université avec leur diplôme. Donc vous vous dites c'est un échec, c'est ce que vous disiez la semaine dernière, on va en reparler. Mais du coup, le fait que l'université soit professionnalisante, ça c'est une bonne chose, non? Ça montre que les étudiants arrivent à sortir avec un diplôme qui après les amène vers l'emploi.
Oui, les formations professionnalisantes sont des formations sélectives. En fait, les étudiants, quand ils arrivent et qu'ils veulent s'inscrire dans une licence professionnelle, il faut qu'ils aient un DUT ou un BTS. Et donc, il y a une sélection. Et effectivement, quand il y a sélection, le taux de réussite est plus élevé que quand il n'y en a pas. Le plan licence n'est pas venu pour ou n'a pas été mis en place pour la réussite en licence professionnelle ou à l'UT, où les taux de réussite sont de 98%, donc on n'a aucun problème à ce niveau-là, et puis on n'en avait pas. Le plan licence, c'est pour améliorer le taux de réussite en licence, et surtout les licences généralistes, la licence de physique, la licence de chimie, la licence de lettres, qui peuvent après conduire à une licence professionnelle après le L2. Mais il y avait beaucoup d'échecs en première année. Donc c'est pas la licence pro, parce que c'est
oui,
le
bien
L3,
sûr, non, c'est pas par,
et c'est pas le DUT.
Par cette filière-là.
Voilà,
mais...
c'est vraiment le taux d'échec en première année, il y avait beaucoup de déchets, parce que les gens arrivaient, ils savaient pas ce qu'ils étaient pas très informés sur les filières, ils s'engageaient dans des choses pour lesquelles ils n'étaient pas bien préparés, etc. Et effectivement, le taux d'encadrement à ce niveau-là était relativement faible. Et donc le plan licence, ça n'a été que de l'argent donné à des enseignants qui sont déjà en saturation, pas forcément des moyens humains. Nous, ce qu'on a demandé, c'est ce que le ministère a pris en compte, c'est des moyens humains. Un prof qui organise déjà des TD en petits effectifs, qui fait du tutorat, si on lui dit bah, « tu vas en faire plus », on va le payer en heures complémentaires, bah, à un moment donné, il ne pourra plus physiquement le faire. D'ailleurs, le ministère arrête le plan licence. S'il l'arrête, c'est bien qu'il y a un problème. Et il met quoi à la place? 1000 postes d'enseignants, chercheurs et de collègues biatos, parce qu'on a besoin aussi de techniciens. Il ne suffit pas de mettre un prof devant les élèves, il faut quelqu'un qui s'occupe des TP, il faut que les administratifs qui suivent les étudiants soient là, parce que les enseignants ne peuvent pas
oui,
tout faire.
Oui,
donc vous voyez bien la différence, et le ministère, avec la tutelle, avec l'alternance politique, ont bien compris que s'il ne suffisait pas de nous donner des heures complémentaires pour un effectif constant, en termes de personnel, mais qu'il fallait nous permettre
donner des moyens aussi.
Des moyens humains, humains.
Sur la question de la loi sur la responsabilité des universités, la fameuse LRU. Alors, elle est censée donner de l'autonomie aux universités. Vous avez bien expliqué que l'autonomie au niveau juridique, institutionnel, elle est là, mais au niveau financier, elle n'est toujours pas là, puisque tous les moyens financiers, cette fois, n'ont pas été transférés de l'État vers les universités. Donc l'Université du Maine est à l'équilibre, parce qu'elle a dû piocher dans ses fonds propres pour assurer cet argent qui manquait, 1,5 million d'euros environ. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir? Alors, est-ce que un jour, selon vous, l'État donnera tout ce qu'il faut pour assurer les salaires, les moyens d'investissement?
Avant la loi, pas la loi, mais c'est les responsabilités compétences élargies, c'est-à-dire le fait qu'on nous ait transféré la masse salariale à gérer. Avant qu'on nous ait transféré la masse salariale à gérer, et la première année qu'on a eu à gérer cette masse salariale, nous étions excédentaires. En 2011, moi j'ai des chiffres là, en 2011 on était excédentaires, donc on a eu plus de recettes que de dépenses, parce que effectivement nos dépenses en masse salariale étaient assumées par l'État. Mais dès que effectivement on nous a laissé nous débrouiller tout seul avec la masse salariale, l'État n'a pas assumé l'augmentation mécanique de cette masse salariale.
Alors comment faire pour qu'il l'assume maintenant, qu'il donne l'argent?
C'est à lui de voir. S'il veut avoir une université qui fonctionne, donc il met les moyens, d'autant plus que c'est des moyens qui sont indispensables. Je veux dire, quand le SMIC augmente de 2%, nous, on ne peut pas demander aux étudiants de payer plus. C'est une entreprise, par exemple, quand on augmente le SMIC, que fait Total? Il augmente les prix de l'essence à la pompe pour rester à niveau. Nous, on ne peut pas. Les frais de scolarité sont fixés par le ministère. Et l'augmentation du SMIC, on a, je sais pas, 20 ou 30% de nos collègues qui sont payés à ce niveau-là. Ça fait plusieurs centaines de milliers d'euros. Où voulez-vous qu'on les trouve ?
Est-ce que vous pouvez trouver de l'argent ailleurs auprès d'entreprises qui vont monter des partenariats ? Il y a une fondation, vous l'avez annoncé, qui apporte de l'argent pour un master spécifique, le master acoustique. Est-ce que là, il n'y a pas
La fondation, elle apporte de l'argent pour le master. Elle ne l'apporte pas pour pour l'augmentation du SMIC. Je pense qu'il faut séparer les choses. Soit l'État s'occupe correctement du financement de notre travail ou de nos frais qu'il a lui-même assumé jusqu'à présent, et nous on peut effectivement trouver de l'argent pour accompagner un master ou licence professionnelle assurance avec les MMA, ça on le fait depuis très longtemps, mais on ne peut pas nous demander d'assumer des décisions prises par le ministère qui est notre tutelle. Je rappelle que je suis encore fonctionnaire, je ne suis pas président directeur général de l'Université du Maine, je suis président de l'Université du Maine, élu par mes collègues, payé par le ministère en tant que professeur des universités. Donc là, il y a quand même des confusions à ne pas voir. Ou alors on libéralise les frais de scolarité, comme dans les pays anglo-saxons.
Ça n'a pas l'air d'être la tendance.
Ah bah non, c'est les étudiants, déjà l'autre jour, ils ont occupé le CA parce qu'ils étaient mécontents que quelques UL se transforment en pratique libre parce que c'était illégal de les payer. Vous imaginez si on triple les frais de scolarité au Québec, rappelez-vous.
On voit oui, les manifestations.
Ah, oui, le printemps érable, si on veut un printemps sartois, et on ne peut pas s'y prendre mieux, hein, et puis même au-delà de Sartois.
Merci beaucoup Rachid Alguerjouma, nouveau président de l'Université du Maine. Merci pour nous avoir exposé tous ces dossiers de rentrée.
Merci à vous.